Regard sur l'actualité.
Regard sur l'actualité.
Au cœur du changement global.
Le journal. L'actualité des mondes urbains anthropocènes.
Et on se retrouve en direct pour le journal de la rédaction et au programme aujourd'hui. Malgré les pluies abondantes sur le pays cet hiver, l'eau manque toujours dans les Pyrénées orientales. Et s'il a beaucoup plu cet hiver, il a également fait très chaud. Retour sur les causes et les conséquences des températures particulièrement élevées des derniers mois. Le changement climatique impacte aussi le niveau des océans et affecte le trait de côte, ce qui met en péril une grande partie du littoral français. Et la bonne nouvelle du jour, eh ben, elle nous vient des mésanges et de leur présence sur le tracé de la 69. Alors on commence ce journal avec un nouveau rapport qui insiste sur la nécessité d'adapter nos sociétés au réchauffement climatique, Damien.
Et oui, Florian, après les différents rapports du GIEC qui insistent sur l'ampleur du défi climatique, après les rapports Pisani-Ferry-Mahfouz appelant à financer la transition climatique, c'est au tour de l'Institut de l'économie pour le climat de faire entendre sa voix dans un rapport intitulé « Anticiper les effets d'un réchauffement de plus 4 degrés, quel coût de l'adaptation ?» Publié le 5 avril, ce rapport tente d'estimer le coût d'une adaptation de l'économie actuelle aux enjeux climatiques en cours et à venir. Remis au ministre de l'écologie Christophe Béchu, il sera probablement au cœur du PNAC 3, le troisième plan national de l'adaptation au changement climatique du gouvernement qui devrait être annoncé dans les semaines à venir.
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire tenter d'estimer les coûts de l'adaptation ?
Eh bien, ça veut dire que c'est pas si facile que ça. Cela fait plus d'un an que les trois auteurs, Vivian Despoues, Guillaume Dolques et Morgane Nicole, travaillent sur la question et la première conclusion de leur rapport est claire, il est possible d'apporter des éléments de chiffrage mais pas de coût unique de l'adaptation en France. En effet, ils écrivent que
« S'il est difficile d'estimer un tel coût, c'est parce que celui-ci dépend à la fois du niveau de réchauffement que l'on souhaite considérer et de la manière dont on choisit collectivement de se préparer. »
Pour donner un exemple, ils expliquent que rendre insubmersible une route coûte évidemment bien plus cher que d'organiser des fermetures temporaires d'une route submergée tout en acceptant un moindre niveau de service.
Et pour faire face aux évolutions climatiques, il y a donc deux choix, l'adaptation ou la réaction.
Effectivement, et jusqu'alors, les politiques publiques semblent majoritairement tournées vers l'idée de réaction. Or, le rapport l'atteste, les réactions spontanées, souvent plus faciles à gérer à court terme, se retrouvent bien plus coûteuses pour les finances publiques. Ainsi, les auteurs appellent à de véritables adaptations structurelles dans un contexte où les dépenses subies ne vont cesser d'augmenter. À long terme, le coût de l'inaction sera très vraisemblablement plus fort que celui de l'anticipation.
Pour expliciter leurs propos, les auteurs se sont penchés sur trois secteurs distincts.
Effectivement, leur regard se porte sur le secteur du bâtiment, des transports et enfin de l'agriculture, notamment végétale. Pour ce qui est du secteur du bâtiment, ils expliquent que la majorité de ces bâtiments-là n'ont pas été conçus pour faire face aux risques climatiques actuels et futurs. Ainsi, ils donnent une fourchette très large d'investissements nécessaires pour adapter nos bâtiments, comptant entre 1 et 2,5 milliards d'euros pour le neuf et plusieurs milliards d'euros pour le bâti ancien. Ces sommes viennent bien entendu s'additionner aux investissements déjà estimés, comme ceux de la rénovation énergétique. Dans le secteur des transports, il faudrait augmenter les investissements de plusieurs centaines de millions à quelques milliards chaque année afin que les réseaux routiers et ferrés demeurent pérennes dans le temps. Et du côté de l'agriculture, enfin, c'est un investissement additionnel d'environ 1,5 milliard d'euros par an qui est attendu dans la prochaine décennie afin de maintenir les rendements des principales cultures végétales en France dans ce contexte d'instabilité climatique.
Et un contexte d'instabilité qui va coûter très cher à la collectivité.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais l'adaptation est obligatoire au vu de ce que cela pourrait coûter tant économiquement que socialement si aucune mesure n'est entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, à partir du bilan 2023 de la Fédération des assurances France Assureurs, les sinistres climatiques ont coûté plus de 6 milliards d'euros aux assureurs en 2023, une année record. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque ces mêmes assureurs alertent sur le fait que le dérèglement climatique aurait des répercussions sur presque 40% de l'ensemble des risques recensés.
Et des chiffres alarmants qui devraient pousser plus que jamais les pouvoirs publics à s'adapter. De l'eau, dans les nappes phréatiques, cette année, il y en a presque partout en France. Presque partout, sauf dans la vallée du Rhône et surtout dans les Pyrénées orientales, département touché par une sécheresse historique qui dure depuis près de 2 ans. Situation qui pousse à réfléchir à de nouvelles infrastructures pour y acheminer l'eau.
C'est l'un des effets du changement climatique que l'on oublie le plus souvent. Si les hivers ne sont plus froids en France, d'ailleurs celui qui vient de s'écouler a même été le plus chaud de l'histoire des relevés météorologiques, ils sont plus pluvieux qu'auparavant. A contrario, les étés sont plus chauds et plus secs.
Alors même la Provence a connu des records de précipitations en mars. Quel est le problème ?
Un département résiste, lui, toujours et encore aux nuages et à la pluie. Les Pyrénées-Orientales. Il n'y pleut presque plus depuis 2 ans.
Et le département est en passe de désertification. Cela remet en cause l'ensemble de l'agriculture locale, mais également la possibilité d'approvisionner en eau potable certains villages.
Merci de prendre la main, Damien, pendant que François boit un petit peu d'eau. Alors François, quelles sont les solutions envisagées ?
Le Conseil régional d'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée propose de rouvrir le dossier Aqua Domita.
C'est un immense tuyau qui puise l'eau du Rhône pour la délivrer dans une grande partie du Languedoc-Roussillon. La volonté de la région et du département est de le prolonger, ce tuyau, jusqu'aux Pyrénées-Orientales.
L'eau du Rhône est abondante, la situation dans les Pyrénées-Orientales devient catastrophique. Nous sommes dans une réflexion collective pour relancer un projet qui, à l'origine, devait se prolonger jusqu'à Barcelone.
C'est ce qu'affirme Fabrice Verdier, conseiller régional PS et président de BRL, l'ancienne compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc au journal Le Monde. Et cette affirmation, pardon Damien, elle pose plusieurs problèmes.
La première est que si l'ouvrage n'a pas été étendu jusqu'à Barcelone, la raison n'est autre que le refus des élus des Pyrénées-Orientales de le voir passer sur leur territoire, se pensant à l'abri des manques d'eau et craignant surtout la concurrence des agriculteurs espagnols.
Et l'autre point indiscutable vient de la soi-disant abondance d'eau du Rhône. Une baisse de débit qui entraîne irrémédiablement une avancée de la mer dans les terres. Et les terres en question, elles sont camarguaises. C'est donc le risque de voir l'ensemble de cette région agricole salinisée et donc rendue impropre à la production. Et si le seul cas des Pyrénées-Orientales ne remet pas en cause irrémédiablement et immédiatement le débit global du fleuve, l'accumulation des régions limitrophes, soumises à la sécheresse durant les prochaines années, et dont les aspirations elles seront les mêmes, fait craindre la mise en péril de l'ensemble du bassin camarguais. Et la solution, elle passe donc par l'adaptation, tu en parlais tout à l'heure Damien, des pratiques et par la sobriété.
Avant de parler sobriété, le département doit d'abord s'occuper de l'état de vétusté de ses installations. On estime les pertes en eau à 40% dans certains secteurs. L'agence de l'eau a d'ailleurs versé quelque 4,6 millions d'euros l'année dernière pour y remédier.
Mais l'eau du Rhône, elle attise d'ailleurs toutes les convoitises en ce moment.
Oui, enfin celle de l'Isère en l'occurrence, un affluent du Rhône. Près de Grenoble, l'usine ST Microélectronique, fabricant de semi-conducteurs, pompe une grande quantité d'eau, près de 15% de l'usage du réseau grenoblois, avant de le rejeter pollué en phosphore, cuivre et azote dans le cours d'eau, comme le rapporte le site Novetic. Cette situation a entraîné des centaines de militants à manifester ce week-end. De son côté, l'État continue de largement subventionner l'entreprise dont la production est stratégique dans la course à l'électrification et aux nouvelles technologies.
En bref, cette semaine, l'accord entre Tuvalu et l'Australie se dessine.
Depuis plusieurs mois, les gouvernements d'Australie et de Tuvalu travaillent de concert pour un accord historique. Cet accord, baptisé Union Falepili, est emprunté à la langue tuvaluane et se traduit par l'idée d'un soutien mutuel entre voisins. En effet, le traité présenté au Parlement australien à la fin du mois de mars offre aux 11 000 citoyens des Tuvalu le droit de vivre en Australie si leur territoire venait à disparaître en raison de la montée des eaux. Rappelons que si cet archipel du Pacifique pourrait être complètement inhabitable d'ici 80 ans selon certains spécialistes du réchauffement climatique, une situation inédite qui donne à réfléchir à des solutions pérennes quand nous savons qu'entre 500 millions et 1 milliard d'individus sont menacés par la montée des eaux dans le monde.
Et pour cette deuxième brève, on retrouve François derrière le micro qui va nous parler de la déforestation qui ne ralentit pas dans le monde.
Et oui, le World Resources Institute et l'Université du Maryland révèlent que l'équivalent de la superficie de la Suisse a été déboisé en 2023. Pourtant, l'arrivée au pouvoir de Lula au Brésil et de Gustavo Petro ont entraîné une diminution drastique de la déforestation dans ces deux pays. Mais la tendance s'est accentuée ailleurs. C'est par exemple le cas au Laos ou encore en Bolivie. Et le Brésil fait cependant partie avec la Bolivie et le Congo des pays qui ont perdu la plus grande superficie de forêt primaire en 2023.
Première mondiale, un pays condamné pour violation du droit à un environnement sain.
Et c'est au Pérou que s'adresse la condamnation dressée par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le pays est condamné pour ne pas avoir protégé les habitants d'Oroya de la pollution engendrée par les multinationales. La ville minière des Andes fait partie des 10 villes les plus polluées au monde, dont la population est exposée au plomb, au cadmium, à l'arsenic et au dioxyde de soufre.
En bref, toujours après le Pérou, de retour en Europe, en Suisse plus précisément, pays qui lui aussi a été condamné en justice.
Et oui, car la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour son inaction climatique. C'est la première fois qu'une institution européenne prend une telle décision, ce qui témoigne d'un changement d'échelle. La professeure en droit public Christelle Cornil confirme que cette cause climatique peut être entendue à ce niveau de juridiction de manière légitime. La Suisse est condamnée à verser 80 000 euros à l'association plaignante Aînée pour la protection du climat. Un bon signal, on l'espère, pour les prochaines affaires à venir à cet échelon européen.
en avril, ne te découvre pas d'un fil.
Et oui, c'est ce que nous dit le dicton, mais à en croire les températures récentes, cette formule a du plomb dans l'aile. Alors que l'Institut Copernicus a annoncé que mars 2024 était le 10e mois consécutif franchissant le record de température mondiale, ce week-end, le thermomètre devrait encore atteindre des températures estivales. Le 6 avril dernier, nous avons ainsi vécu la journée la plus chaude jamais observée en France avant un 15 avril.
Et pour la deuxième fois en une semaine, les 30 degrés pourraient être atteints, voire dépassés dans les Landes, le Pays Basque et le Béarn.
Alors ce phénomène météorologique n'est pas intrinsèquement lié au réchauffement climatique, mais il est le produit d'échanges méridiens, une alternance de vents du sud et de vents du nord, de poussées de chaleur et de refroidissement fréquentes au printemps. Mais c'est la répétition de ces pics de chaleur précoces qui, elle, l'est. Deux épisodes seulement avaient été enregistrés dans les années 1980, quatre l'ont déjà été au cours des années 2010. Outre l'élévation graduelle des températures moyennes, ce sont une fois encore ces valeurs aberrantes qui s'avèrent intéressantes. Les températures pourraient dépasser de près de 10 degrés les normales saisonnières, une invitation à se pencher sur l'écart-type comme indicateur.
Et en parlant d'écart ?
C'est une étude récente réalisée par l'INRAE, Bordeaux Sciences Agro, le CNRS, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bourgogne qui s'y intéressent. Le réchauffement climatique a aussi des conséquences pour les non-humains, on le sait, et en particulier nos cultures qui vont aussi connaître un grand écart, une migration forcée. Prenons l'exemple du vin. Les chercheurs estiment ainsi que près de 90% des régions viticoles côtières et de basse altitude du sud de l'Europe et de la Californie courent le risque d'une perte d'aptitude à produire du vin de qualité et des rendements économiquement soutenables d'ici la fin du siècle si le réchauffement global dépasse plus de 2 degrés. D'autres régions pourraient tirer leur épingle du jeu, profitant d'une amélioration de leur potentiel viticole. C'est le cas du nord de la France ou de la Colombie-Britannique au Canada. La hausse des températures pourrait ainsi participer à l'apparition de nouvelles régions viticoles s'étendant jusqu'au Danemark. Alors, oubliez le champagne champenois et le bordeaux bordelais, l'heure est au monde d'après et santé.
Quand la Terre recule sous le poids de la mer, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la triste réalité des côtes françaises.
15 mètres par an, c'est le recul annuel moyen du trait de côte que connaît l'ouest de l'île d'Oléron. Loin d'être anecdotique et singulier, ce chiffre est représentatif d'une tendance à l'œuvre, l'érosion sédimentaire. Ce phénomène désigne le processus d'enlèvement ou de déplacement de sédiments sous les effets combinés de la marée, de la houle, des vents et des pluies à répétition. Et s'il s'agit d'une tendance de fond, l'érosion côtière est aujourd'hui amplifiée sous l'effet d'un double phénomène, l'élévation du niveau des mers d'une part et la multiplication des événements météorologiques extrêmes dus au réchauffement climatique de l'autre.
Et le phénomène inquiète au sommet de l'État.
Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en a fait l'une des priorités du futur plan d'adaptation au changement climatique, le PNAC, attendu dans les prochaines semaines. Le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et qui est l'organisme public chargé de fournir l'expertise technique sur le sujet, a publié vendredi un nouveau rapport qui évalue les conséquences à moyen et long terme.
Tu nous donnes quelques éléments de contexte.
Des chiffres pour commencer. Toutes les régions littorales françaises sont concernées par l'érosion. Pour rappel, si celle-ci occupe seulement 4% de la surface de la France, elle concentre 10% de la population et leur fréquentation est multipliée par 2 à 6 l'été.
Sur les 50 dernières années, l'équivalent de 4200 terrains de foot sont partis à la mer.
Note ainsi Julia Jordan, directrice adjointe des activités risques eau et mer au CEREMA. La littoralisation de l'économie, qui n'est en rien une originalité française, est donc largement interrogée par ce phénomène, tout comme notre modèle d'aménagement en partie à réinventer.
Quel est donc le contenu de ce rapport ?
Le CEREMA poursuit une enquête déjà entamée en 2018 visant à recenser les logements potentiellement menacés par le recul du trait de côte à l'horizon 2050 et 2100. Actuellement, 500 communes sont d'ores et déjà concernées en France, dont un peu plus de 300 se sont mobilisées. Mais dans cette nouvelle étude, au maillage plus fin, il va plus loin. Prospectif, le rapport livre des analyses inédites à trois échéances, 2028, 2050 et 2100.
Qu'en est-il pour 2028 ?
Pour ce premier pas de temps, le CEREMA recense les bâtiments à risque quasi immédiat d'être impactés et qui ne sont pas protégés par un ouvrage de protection de type digue ou mur. Dans ses projections, le centre estime que 1000 bâtiments sans action d'ici là pourraient être touchés, c'est-à-dire rendus inhabitables. D'un point de vue financier, la valeur vénale des bâtiments identifiés, soit la somme que pourrait obtenir un propriétaire en cas de vente hypothétique de son bien à une date précise, représenterait des pertes estimées à environ 240 millions d'euros.
Et cela ne s'arrange pas avec l'OTAN.
Hélas non, pour établir le scénario à échéance 2050, le CEREMA s'est appuyé sur l'hypothèse d'une continuité des phénomènes observés ces 50 dernières années.
Trois composantes sont prises en compte, le recul chronique du trait de côte, le recul événementiel quand une tempête va venir grignoter 10 à 20 mètres de littoral ou qu'une falaise s'écroule, et le maintien en service de tous les ouvrages de protection.
Explique François Hédoux, directeur du projet au CEREMA. Et les chiffres qui en résultent sont pour le moins inquiétants. On passe ainsi à 5200 logements impactés, dont 2000 résidences secondaires, pour une valeur estimée de 1 milliard d'euros. Au-delà des logements, il faudrait aussi compter avec 200 coupures du réseau routier.
Scénario de l'inaction.
Pour l'horizon 2100, le précédent rapport du CEREMA prévoyait au pire 50 000 logements menacés. Les estimations livrées par cette nouvelle étude sont 10 fois supérieures. Près de 450 000 logements seraient condamnés à la fin du siècle, représentant une valeur de 86 milliards d'euros. Pour justifier cette évolution brutale des prévisions, les experts s'appuient sur des hypothèses très défavorables en l'absence de réaction politique d'envergure. Des ouvrages de protection qui ne rempliraient plus leurs fonctions et un dérèglement climatique qui s'appuierait sur le scénario le plus pessimiste du GIEC. Dernière donnée ajoutée à cette nouvelle enquête, le phénomène d'ennoiement progressif des zones basses, jusqu'alors peu prise en compte. Rappelons qu'il s'agit toutefois
d'un scénario théorique, celui de l'inaction, qui invite avant tout à une prise de conscience.
Martel Julia Jordan.
Quelle stratégie alors d'adaptation prévoir ?
L'heure est déjà à la prise de conscience. Il y aura des zones qui seront inhabitables, a prévenu jeudi 4 avril dernier le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu au micro de TF1. Plusieurs stratégies sont sur la table. Elles sont diligentées par le Comité national du trait de côte, créé il y a un an, qui a pour mission d'identifier les différents leviers d'action et leurs sources de financement possibles. D'abord, il convient pour les communes identifiées d'adapter leur politique d'aménagement et d'urbanisme, c'est-à-dire d'interdire les constructions à partir des cartographies du CEREMA. Des mesures techniques peuvent aussi être préconisées, et celles-ci peuvent être l'érection de barrières naturelles, comme les dunes ou les récifs coralliens, la construction de digues, des brise-lames ou des surélévations.
Mais ces mesures techniques ne sauraient suffire.
C'est une véritable inflexion politique qui doit être mise en œuvre, car l'adaptation à imaginer a trait à l'indemnisation ou au relogement des populations sur d'autres terrains. Le rapport recommande ainsi de prévoir le financement du rachat des biens menacés à l'horizon 2050, une enveloppe évaluée entre 50 millions et 150 millions d'euros par an. Et puisque, comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre, ces investissements, financés pour partie par le plan de relance et par le fonds vert, doivent faire l'objet d'arbitrages politiques. Or, ce même fonds vert vient justement de faire les frais des récentes restrictions budgétaires. Tout un programme qui s'érode.
Et la bonne nouvelle aujourd'hui, elle est représentée par un oiseau, Damien.
Et pas n'importe quel oiseau, Florian, puisqu'il s'agit de la mésange bleue. Ce petit oiseau bleu et jaune qui aime la castagne a permis la suspension des travaux de l'A69 entre Toulouse et Castres. Avec l'arrivée du printemps, ces fameuses mésanges que nous avons toutes et tous déjà croisées débutent leur période de nidification pour leur reproduction jusqu'à l'été. Et il s'avère que plusieurs de ces mésanges prennent place au sein du bois de la Crémade, petit bois d'arbres centenaires qui doit être abattu pour faire passer cette autoroute plus que controversée. Alors c'est un écureuil, pas l'animal, mais bien l'espèce rare de manifestants perchés en haut des arbres pour lutter contre leur abattage qui a observé la nidification. Ainsi, le préfet du Tarn a dû interrompre les travaux en application d'une loi de protection des espèces datant de 1976, explique Maxime Zucca, ornithologue et membre du Conseil national de protection de la nature.
Mais alors le projet de la 69, il court toujours ?
Alors malheureusement oui, dès septembre, c'est-à-dire à la fin de cette période de reproduction et de nidification, les travaux de destruction de la biodiversité vont pouvoir reprendre sans considération pour les centaines d'espèces présentes dans cet habitat. Espérons que ces 6 mois profiteront au mouvement de lutte afin de trouver une solution pérenne pour limiter les dégâts d'une autoroute totalement anachronique.
Regard sur l'actualité.
Regard sur l'actualité.
Au cœur du changement global.
In the
Regard sur l'actualité.
Regard sur l'actualité.
Au cœur du changement global.
Et on retrouve Virginie Chaput. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique des énergies ?
Aujourd'hui, on va parler énergie et participation citoyenne. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs années, du fait des opportunités permises par l'ouverture du marché européen de l'électricité et de l'émergence d'une conscience écologique citoyenne, de nouvelles offres de fourniture énergétique émaillent le secteur de la distribution du gaz et de l'électricité. On peut parler d'ILEC, de Mint Energy, d'Equateur ou encore d'Enercop. Les acteurs du secteur de l'énergie se diversifient et cette diversification commerciale participe à habiller l'usager d'énergie du costume caractéristique de consommateur. Vous vous souciez de la sauvegarde de l'environnement et des écosystèmes, l'action commence à la signature de votre contrat d'énergie. Facile. Mais alors, cette nouvelle forme d'injonction à l'investissement citoyen est-elle la seule voie possible pour faire entendre sa voix et participer à tracer la voie d'une société plus sobre et responsable ? Le secteur de l'énergie continue d'être très majoritairement centralisé, tant dans les prises de décision arbitrant ses modalités organisationnelles que dans ses logiques de production et de distribution, et ce notamment du fait que le vecteur énergétique principal en France soit le nucléaire. Pour autant, partout sur le territoire et à différents échelons organisationnels et opérationnels s'appliquant à la gestion de l'énergie, des brèches se dessinent pour que les citoyens s'emparent de la question énergétique. Cette chronique se propose donc de vous embarquer dans une observation sous toutes les coutures du couple énergie-participation. Contre-intuitif au premier abord, en tout cas si on pense l'énergie par le seul prisme de la technique.
Alors, sur les questions énergétiques, est-ce que la participation citoyenne n'est-elle pas finalement mise au service du renforcement de la puissance publique ?
On va d'abord se pencher sur les dispositifs de participation citoyenne développés par les pouvoirs publics pour organiser la planification énergétique. Consulter les citoyens pour négocier et développer des consensus quant aux choix visant à rationaliser la gestion énergétique au gré des enjeux s'étant imposés au secteur au fil de l'histoire récente n'est pas chose nouvelle. La nécessité d'implémenter des modes de production et de distribution énergétique propres, en particulier, coïncide avec une forme d'impératif participatif. Impératif que l'on peut expliquer d'abord par un recours systématique, voire normatif, à des dispositifs de participation dans l'élaboration de la plupart des politiques publiques, et cela sous l'égide de ce que l'on nomme « nouvelle gestion publique », et ensuite par le terreau conflictuel des premiers pas de la transition énergétique. Une conflictualité centralisée autour d'opposition à certains projets énergétiques jugés délétères par les citoyens, mais qui a permis l'émergence d'alternatives organisationnelles. Pas étonnant dans ce contexte que les institutions cherchent par la participation citoyenne le consensus et la sérénité politique. À propos d'énergie, l'événement père du caractère incontournable du recours à la participation citoyenne pour cadrer la transition est le débat national de la transition énergétique lancé dans les années 2010 sous le mandat de François Hollande. Ce débat s'est déroulé sur 8 mois et se caractérise par l'éclectisme de ses échelles d'action et de ses canaux de diffusion. Véritable mutant organisationnel, le DNTE s'est déployé en version régionale, a permis la collecte de contributions transmises par courrier ou via une plateforme développée pour l'occasion et s'est soldé par la tenue de plusieurs journées dédiées à l'énergie. Citoyens, acteurs de l'énergie et décideurs ont été mobilisés pour qu'un ensemble de propositions soient rédigées et permettent de paver le cadre légal qui entérinera une vision nationale de la transition ainsi collectivement décidée. Ce mode d'action n'est pas novateur. Dès le Grenelle de l'environnement du début des années 2000, le souci de la consultation était prégnant. Si les annonces de ces dispositifs tendent aujourd'hui à gagner en écho, on pense ici à l'annonce en grande pompe de la Convention citoyenne pour le climat, les pouvoirs publics continuent à avoir du mal à s'incliner face aux scénarios et aux propositions issues de ces arènes démocratiques. Si le branding de ces dispositifs s'est professionnalisé, le sort réservé à leur production n'a pas vraiment bougé. Participer, mais laisser l'État trancher. Dès lors, on peut questionner l'intérêt de s'embêter à lancer de tels branle-bas de combat. Pourquoi ne pas se contenter d'un comité d'experts si la décision finale revient, quoi qu'il arrive, aux élites? Quelques pistes de compréhension émergent ici. D'abord, faire participer permet de communiquer et d'assurer la transparence politique. Mais surtout, appeler à la mobilisation de tous permet de légitimer les décisions et de déjouer d'éventuels mouvements contestataires. Mort dans l'œuf, les antinucléaires. C'est toute la puissance publique qui se retrouve ici renforcée et bien difficilement critiquable.
Existe-t-il des alternatives à cette participation institutionnalisée ?
Eh bien oui. Les citoyens les plus investis ou désillusionnés par le factif des dispositifs de participation ont la possibilité d'accélérer la transition énergétique en prenant des parts dans des centrales citoyennes. Reprenant le fonctionnement des grands acteurs de l'énergie, mais sur le mode associatif, ces infrastructures proposent à tout un chacun d'investir pour déployer sur tout le territoire des parcs d'énergie renouvelable. Si l'État est long à la détente, qu'à cela ne tienne, les citoyens prennent les choses en main et sans se soucier ni d'équilibre de marché, ni d'enjeux de centralisation. Une bonne idée quand on en voit peu, mais aux limites pernicieuses. En effet, les pouvoirs publics valorisent ces initiatives et les accompagnent, au même titre que le rôle joué par les banques alimentaires pour les problèmes de malnutrition et d'inégalité d'accès aux ressources alimentaires. On peut ici craindre un glissement de posture pour ces collectifs. Perdant de leur superbe politique et alternative, la caution institutionnelle leur permettant pourtant de massifier leur action risque aussi d'en faire des pansements érigés en discours comme preuve de transition et évitant ainsi aux structures systémiques de se transformer en profondeur. S'organiser pour récupérer un semblant de souveraineté énergétique citoyenne reste une voie prometteuse à investir tant qu'on renonce aux paillettes des premiers jours.
Et alors, est-ce que les gestionnaires de réseaux investissent aussi ces logiques de participation ?
Eh oui, même les plus frileux d'entre nous sont dorénavant impliqués dans la transition énergétique. Le déploiement national des compteurs Linky, Téléo et Gaspar fait de nous tous des consommateurs, des membres actifs agissant pour la transition par le seul fait de consommer de l'énergie. À la bonne heure. Outre l'ancrage dans une vision technophile de la transition, ici la donnée est d'or pour permettre un monitoring ajusté qui limiterait les perditions dans les réseaux et qui assurera la transition, et la non-remise en question du rôle social de consommateur qui nous colle à la peau, ces dispositifs embarquent dans leur installation obligatoire des questions démocratiques cruciales. En effet, difficile face à cette généralisation de la production de données énergétiques et à leur captation par des acteurs publics et privés de l'énergie, de ne pas se poser la question d'un certain nombre de risques dystopiques. Parmi eux, celui de la privation d'accès à l'énergie en cas de non-respect d'éventuelles normes de consommation en vigueur. Et si finalement, pour transitionner avant de faire participer à tout prix, la clé ne serait pas de définir collectivement l'énergie comme bien commun inaliénable ?
Regard sur l'actualité.
Regard sur l'actualité.
Au cœur du changement global.
Merci Virginie pour cette chronique. Regard sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur toutes les plateformes et sur le site radio-anthropocène.fr. Merci Damien, merci François. Avec les micros, merci.
Merci Florian.
Merci à toi.
François, un petit mot, parce que je crois que tu nous quittes pour quelques mois.
Exactement, mais ce sera un plaisir de vous retrouver bientôt. Je vais prendre le large et un grand merci à toutes et tous, et notamment à toute la technique qui nous permet de réaliser cet exercice chaque mois, deux fois par mois, et on les remercie grandement, Gindra Kratokville, qui réalise avec brio cet exercice.
Merci François pour ce mot de fin. Nous, on se retrouve dans une demi-heure avec Valérie Didier pour un mercredi de l'Anthropocène consacré aux data et aux villes intelligentes. D'ici là, on fait une petite pause musicale et puis à tout à l'heure du coup pour les mercredis de l'Anthropocène.